Ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔ.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Salut à toutes et à tous, Mohamedou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 29 décembre 2022. Il est 17h30 temps universel pour commencer le sommaire. 46 militaires ivoiriens détenus depuis 5 mois au Mali sont jugés aujourd'hui à Bamako. Burkina Faso, nouvelle arrestation du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana qui venait d'être relâché. Le parquet évoque une tentative de déstabilisation. Benjamin Netanyahou revient au pouvoir avec le gouvernement le plus à droite de toute l'histoire d'Israël. Inquiétude dans le monde face à la toute dernière vague de Covid-19 en Chine qui va malgré tout lever ses restrictions. À suivre aussi l'actualité économique et sportive pour commencer le journal. Le procès des 46 militaires ivoiriens soupçonnés d'être des mercenaires et détenus au Mali depuis juillet est en cours à la cour d'appel de Bamako. Nous nous rendons immédiatement sur place pour avoir les dernières nouvelles de cette affaire avec notre correspondant Mohamed Danyoko. Salut Mohamed.
Bonsoir Oumfa, bonsoir.
Alors, quelle est la situation sur place? Le procès est-il déjà ouvert?
Oui, effectivement, on vient de quitter tout de suite la cour d'appel et nous avons attendu pendant 8 heures de temps, de 8 heures jusqu'à 16 heures passées. C'était l'audience des 46 militaires. Ils sont arrivés très tôt ce matin aux environs de 8h45. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'au sortir de cette audience de 8 heures, les avocats n'ont pas voulu s'adresser à la presse. Aucune interview n'a été accordée et les 46 militaires ont embarqué et ont été raccompagnés comme ils sont venus ce matin et à la cour d'appel. Mais ce qu'on a pu retenir aussi comme information, c'est que demain matin, vendredi à 9h, l'audience va reprendre. Et c'était prévu pour 2 jours, donc c'est sûr que certainement demain, on aura une information par rapport à ce qui va suivre, en tout cas, le sort de ces 46 militaires-là. Et l'audience, c'est tout ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui. Mais nous avons attendu toute la journée, rien n'a filtré. Mais l'information qu'il faut retenir, c'est que demain encore à 9h, ça va reprendre.
Oui, Mohamed, est-ce qu'on peut savoir, vous dites que les avocats ne se sont pas adressés à la presse, est-ce qu'on peut savoir pourquoi il semble y avoir une omerta autour de cette affaire, des informations?
Et justement, ça étonne tout le monde parce que déjà, on n'a pas eu même une information officielle pour dire que c'est ce jeudi d'ailleurs qu'il y aura, et comment on appelle cette audience. Il n'y a pas eu d'information officielle. Tout s'est passé comme si c'était caché. Et on a pu de gauche à droite récolter les informations et on est venu. Et ce matin encore sur place, rien n'a filtré. D'ailleurs, les journalistes qui étaient dans la cour à attendre le début de l'audience ont été priés de regagner et l'extérieur. Donc, aucun journaliste n'a pu, en tout cas, rester au sein de la cour d'appel. On était tous dehors. Et donc, c'est un peu ça. Donc, à la fin aussi, les avocats sont passés. On a tenté le tout pour le tout. On a voulu coincer certains avocats pour avoir ne serait-ce qu'un mot, mais aucun d'eux n'a voulu s'arrêter. Et donc, c'est aujourd'hui, comme vous le dites, une certaine omerta qui entoure et ce procès-là qui a lieu actuellement à la cour d'appel. Mais nous espérons que demain, à la fin de l'audience, nous aurons quelque chose et nous pourrons avoir des réactions de la part des avocats et, si possible, tout quand même pas du parti.
Voilà, merci beaucoup Mohamed Danyoko. On va vous retrouver demain pour avoir la suite de cette affaire. Au Burkina Faso, le parquet militaire a dénoncé une tentative de déstabilisation des institutions de l'État impliquant un haut gradé déjà incarcéré, récemment libéré, puis de nouveaux arrêtés. Rosine Mounezero nous en dit plus.
Le parquet militaire indique dans un communiqué publié hier soir que les premiers éléments d'une enquête ouverte après dénonciation révèlent que des militaires en collusion avec des civils étaient en train de préparer une déstabilisation des institutions de l'État. Ce groupe serait en contact avec l'unité dite Mamba Vert du lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana et qui projetait de lancer des attaques simultanées sur la radio-télévision du Burkina, la maison d'arrêt et de correction des armées ou MACA, où était détenu cet officier supérieur pour des faits similaires et la résidence du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, selon le procureur militaire. Le lieutenant-colonel Zungrana a été interpellé une première fois et incarcéré pour tentative de déstabilisation des institutions. Il a été remis en liberté provisoire le 15 décembre avant d'être à nouveau interpellé il y a 2 jours à son domicile à Pabré, au nord de Ouagadougou.
En Éthiopie, la police fédérale affirme dans un communiqué être entrée ce jeudi dans la capitale de la région du Tigré pour garantir la sécurité des institutions fédérales, dont les aéroports, les banques et les services de télécommunications. Une première depuis 18 mois. Cette annonce intervient près de 2 mois après que le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens ont signé le 2 novembre un accord mettant fin à la guerre qui a ravagé durant 2 ans cette région du nord de l'Éthiopie. L'entrée de la police dans la capitale de la région septentrionale de l'Éthiopie constitue un signe supplémentaire de la normalisation des relations entre les autorités fédérales et l'ancienne zone rebelle. Au Soudan, au moins 9 personnes ont été tuées dans de nouveaux affrontements tribaux dans le Darfour. Les accrochages ont éclaté tard mercredi soir après la mort d'un homme de la tribu africaine Four, tué lors d'une dispute avec un membre de la tribu arabe des Rizega à Zalingué, capitale de l'État du Darfour Centre, ont rapporté des témoins. Des Rizega à moto et armés ont par la suite attaqué des Four installés dans un camp de déplacés, a indiqué Adam Regal, porte-parole de la coordination générale pour les réfugiés et les déplacés au Darfour. Le Darfour est souvent le théâtre de violences tribales, entre autres provoquées par des disputes territoriales et des difficultés d'accès à l'eau. Non loin, au Soudan du Sud, environ 30 000 personnes ont fui en moins d'une semaine des violences entre groupes armés dans l'Est, a affirmé aujourd'hui le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Les affrontements entre groupes armés qui ont débuté le 24 décembre ont forcé 30 000 personnes à fuir dans la région administrative du Grand Pibor, dont des femmes et des enfants, selon OCHA, évoquant également du vol de bétail et des destructions de biens.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Israël, Benjamin Netanyahou revient au pouvoir ce jeudi. Il va diriger le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël, qui suscite déjà des inquiétudes. Le point avec Abdourahmane Dia.
Vainqueur des législatives du 1er novembre, Benjamin Netanyahou a présenté dans la matinée son équipe aux députés. Il a annoncé la nomination de l'ex-ministre du renseignement, Eli Cohen, à la tête des affaires étrangères. Hier, il avait indiqué que le poste de ministre de la Défense reviendrait à Yoav Galan, un ancien haut gradé jugé proche du mouvement pro-colonisation en Cisjordanie occupée. La mission du gouvernement sera de contrecarrer les efforts de l'Iran pour se doter d'un arsenal nucléaire, d'assurer la supériorité militaire d'Israël dans la région, tout en élargissant le cercle de la paix avec les pays arabes, a déclaré M. Netanyahou au Parlement. Âgé de 73 ans et inculpé pour corruption dans plusieurs affaires, le chef de Likoud avait été chassé du pouvoir en juin 2021 par une coalition hétéroclite avant de promettre un retour aux affaires en s'alliant avec des partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite. Sa coalition comprend une formation connue pour ses propos anti-palestiniens et favorable à l'annexion d'une partie de la Cisjordanie et d'un parti ouvertement anti-homosexuel. Des centaines de personnes, dont plusieurs arborant le drapeau arc-en-ciel, ont manifesté ce jeudi devant le Parlement contre ce nouveau gouvernement.
Les États-Unis ont rejoint un nombre croissant de pays qui ont décidé d'imposer des contrôles aux passagers en provenance de Chine, où la levée des restrictions sanitaires semble avoir entraîné une explosion des cas de COVID-19. Michel Joseph.
Depuis la levée des restrictions, les hôpitaux chinois sont submergés par une déferlante de malades, pour la plupart âgés et vulnérables. En dépit du rebond épidémique, les autorités vont cesser le 8 janvier les quarantaines obligatoires à l'arrivée en Chine et autoriser les Chinois de nouveau à voyager à l'étranger après 3 ans de frustration. Par précaution, les États-Unis et plusieurs pays ont annoncé qu'ils exigeraient des tests PCR négatifs des passagers en provenance de Chine. Le Japon prendra une mesure similaire dès vendredi. En Europe, l'Italie, durement frappée par le COVID-19 en 2020, a annoncé des tests obligatoires. Bruxelles discute ce jeudi une approche coordonnée des États membres de l'Union européenne. Un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, a fustigé certains commentaires faits pour salir la Chine et qui, selon lui, ne correspondent pas à la réalité. La Chine ne délivre plus de visas touristiques depuis bientôt 3 ans et impose une quarantaine obligatoire à l'arrivée. Cette mesure d'isolement sera levée le 8 janvier, mais un test de dépistage de moins de 48 heures sera toujours exigé.
L'ex-pape Benoît XVI est dans un état stable, a indiqué le Vatican ce jeudi. Le pape est parvenu à bien se reposer la nuit dernière et éveillé et totalement lucide. Et aujourd'hui, bien que son état reste grave, la situation à ce stade est stable, a indiqué dans un communiqué le directeur du service de presse du Vatican, Matteo Bruni. Joseph Ratzinger, 95 ans, a passé la nuit sous contrôle constant de ses médecins et cette surveillance médicale sera maintenue, a indiqué l'agence de presse italienne ANSA. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, les dernières nouvelles économiques en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, c'est avec Nani Talani.
Au Congo-Brazzaville, le PRODIVAC, projet de développement intégral des chaînes de valeurs agricoles, a fixé son budget 2023 à 16 553 millions de francs CFA. Les activités seront concentrées autour des conventions de financement avec les institutions nationales et internationales et la signature des partenariats avec des structures privées comme Saris Congo. L'accent sera également mis sur la réhabilitation des pistes agricoles dans les plateaux, le Poule et la Bouenza. Les producteurs auront accès à des semences et à un fonds bancaire. Le canal de Suez en Égypte accueillera favorablement les investissements étrangers, mais les étrangers n'auront aucun contrôle sur la voie navigable ou sur un projet de fonds qui aiderait à gérer ses ressources, a déclaré le chef de l'autorité du canal de Suez, Oussama Rabi. Terminons par la Zambie qui n'a pas encore discuté des propositions de restructuration de la dette avec les créanciers bilatéraux. Ces propositions doivent encore être discutées avec les 10 créanciers dans le cadre du processus multilatéral du cadre commun, a annoncé le ministère zambien des Finances.
Et maintenant, l'actualité sportive, c'est avec Bagassi Koura. Bagassi, les Léopards A de la RDC sont en amical contre les Diables Rouges du Congo au stade des Martyrs de Kinshasa ce 30 décembre.
Bonsoir Oumfa, bonsoir à tous.
Voilà, je le disais donc.
Contre des Léopards du Congo Kinshasa et des Diables Rouges du Congo Brazzaville au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa s'inscrit dans le cadre de leurs préparatifs pour la phase finale de la 7e édition du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, qui débute le 13 janvier en Algérie. C'est ce qu'indique un communiqué du secrétariat général de la FECOFOOT. Selon la dépêche de Brazzaville, cette préparation vise à reconstruire la base physique des joueurs et à évaluer leurs capacités techniques afin de permettre au staff de concocter la liste des joueurs qui seront retenus pour la phase finale.
Toujours CHAN 2022, la liste des éléphants locaux est connue.
Oui, le sélectionneur ivoirien Soalio Aïdara a dévoilé déjà une liste composée de 25 joueurs en vue du championnat d'Afrique des Nations de football 2022. Ces 25 joueurs sont en regroupement fermé depuis le 26 décembre à Yamoussoukro. Selon Africa Sport, ils iront en Tunisie où ils seront en stage pour quelques jours avant de se rendre en Algérie, pays hôte du CHAN.
Football scolaire enfin, la FEMAFOOT offre 260 ballons aux académies d'enseignement du Mali.
Oui, pour développer le football scolaire au Mali, le comité exécutif de la Fédération malienne de football, en collaboration avec la CAF, a offert 260 ballons aux différentes académies d'enseignement du Mali. Selon le premier vice-président de la FEMAFOOT, Kassoum Koulibaly, ce don de ballon permettra aux académies de pratiquer le football et de participer au développement de la discipline à la base ainsi qu'à l'épanouissement des enfants tout en cultivant en eux la passion du foot. Pour le représentant du directeur national de l'enseignement fondamental, Almami Ibrahim Nyono, cette initiative permettra aux académies d'éduquer et de protéger les enfants à travers la pratique du football. La cérémonie de ce don a eu lieu le 25 décembre sous la présidence du premier vice-président Kassoum Koulibaly.
Merci beaucoup Bakassi pour ces actualités sportives. A vida não é brincadeira, não marco bobeira, eu cheguei pra ficar. Acredito que tudo tem hora, tem o seu momento e tem o seu lugar. Pois errar faz parte, evoluir é arte, basta acreditar, depende de você.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous, place au dossier du jour. Plusieurs membres du gouvernement gabonais étaient ici à Washington lors du récent sommet États-Unis-Afrique. Nathalie Barge s'est entretenue avec le ministre d'État chargé de l'industrie, Pacom Mubele Boubeya, et avec Hugues Madimba Madia, ministre de la promotion des investissements et du partenariat public-privé.
Lors de la rencontre, les participants ont exprimé leur volonté de travailler avec les États-Unis. Le ministre de l'Industrie gabonais, Pacom Mubele Boubeya, a insisté sur la transformation des produits pour ajouter de la valeur et créer des emplois.
Il y a beaucoup de points de convergence, beaucoup de points d'alignement et de soutien sur lesquels nous pourrions encore renforcer les domaines d'investissement, que ce soit dans le domaine de la transformation. Et quand je dis transformation, c'est tout type de transformation. C'est-à-dire comment appuyer par des financements au niveau même des marchés financiers américains, les efforts d'investissement gabonais. Comment faire en sorte surtout que l'on puisse profiter réciproquement de l'expérience et de l'expertise des et des autres.
Monsieur Mubele Boubeya a rappelé que le Gabon n'exporte plus de grumes depuis 2010.
Ce qui a abouti à la mise en place des zones économiques spéciales, y compris une spécialement dédiée à la transformation du bois. On a vu ainsi le Gabon partir d'exportateur à aujourd'hui devenir le deuxième producteur de contreplaqué au monde, premier en Afrique. Ce qui veut dire que cette vision, cette politique de mise en œuvre prônée par les plus hautes autorités du pays est celle qu'il faut. Il faut à tout prix transformer pour ajouter plus de valeur, créer plus d'emplois.
Le ministre de la Promotion des Investissements, Hugues Mbadinga Madia, a lui aussi mis l'accent sur le plan d'accélération de la transformation du Gabon.
Ce plan représente un portefeuille d'investissement qui est l'équivalent de 3 000 milliards de francs CFA, donc 6 milliards de dollars, dans divers secteurs. Les secteurs productifs, le bois, qui est un secteur essentiel, l'agriculture, la pêche, et aussi nos secteurs traditionnels comme le pétrole, le mine, mais aussi des besoins importants dans le domaine des infrastructures. L'énergie, sans laquelle il n'y a pas de croissance, mais aussi tout ce qui est infrastructure routière, ferroviaire, etc.
Selon M. Mbadinga Madia, les deux tiers de ce montant doivent s'exécuter par le biais des investissements directs étrangers et nationaux avec des partenariats publics-privés.
Nous avons également ouvert la possibilité dans certains secteurs comme l'énergie avec des codes particuliers à permettre notamment des producteurs indépendants d'énergie, ce qui permet de faire entrer des investisseurs sous le mode de partenariat public-privé. Notre pays, le Gabon, est prêt pour user justement de cette modalité. La loi est prête, les portefeuilles de projets également est prêt. Nous attendons et sommes ouverts aux investisseurs qui veulent venir au Gabon et faire des partenariats publics-privés.
Le Gabon a mis en place des initiatives de valorisation des terres cultivables pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et a mis à disposition 25 à 28 000 hectares de terres arables. Bien que l'agriculture soit une nécessité pour le pays, il s'agit de la développer sans déforestation, estime le gouvernement gabonais, rappelant que le pays fait partie de la grande forêt du bassin du Congo, devenu le premier poumon de la planète devant l'Amazonie. Nathalie Barge, VOA Afrique à Washington.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
À En Guinée, le procès du massacre du 28 septembre, les poursuites judiciaires contre l'ex-président Alpha Condé, le dialogue interguinéen, sont quelques faits qui ont marqué l'année 2022. Voici la rétrospective de l'année avec des réactions des Guinéens au micro de notre correspondant Zakaria Camara.
C'est le mercredi 28 septembre 2022 que les autorités judiciaires guinéennes ont annoncé l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009. Un soulagement pour les victimes, mais aussi un signal fort contre l'impunité des crimes de sang.
Je pense que c'est l'un des événements les plus marquants de l'année 2022. Et l'ouverture de ce procès, ça a été un fait inédit dans notre histoire. Moi, je n'y croyais pas jusqu'à ce que, véritablement, je me suis rendu compte que nous sommes face à l'évidence. Et je trouve que les autorités du CNRD ont quand même eu à faire un formidable travail. La volonté politique a été totale. Et maintenant, espérons que toutes les parties engagées puissent quand même être à la hauteur des enjeux.
Personne ne pouvait croire qu'en un temps record, avec l'arrivée de la junte au pouvoir suite au coup d'État, qu'on pouvait ouvrir ce procès qui a été tant attendu. Vous savez que ça a été l'une quand même des réclamations pressantes des victimes pendant le régime de faim.
La junte au pouvoir en Guinée, depuis le 5 septembre 2021, a promis de faire de la justice la boussole qui doit orienter les Guinéens. Le 4 mai, le procureur général annonce des poursuites contre l'ex-président Alpha Condé et 26 anciens hauts responsables sous sa présidence. Condé jugé en Guinée, ce citoyen n'y croit pas.
Je veux dire que c'est une peine à perdre aujourd'hui. Parce que Alpha Condé, il était là à Conakry, on l'a laissé sortir pour aller en Turquie et après le poursuivre. C'est comme si vous étiez en train de faire le procès d'une personne déjà qui était morte. Moi, je pense que ça n'a aucun sens parce que aujourd'hui, on ne peut plus récupérer Alpha Condé. Et même si aujourd'hui, il y a des poursuites judiciaires contre sa personne et le gel aussi de ses comptes, moi, je pense qu'Alpha Condé, il est tranquille là où il est. Et cette justice, il n'y aura pas de suite.
Plusieurs acteurs politiques sont visés par des procédures judiciaires, des actions de la justice guinéenne qui ont poussé certains partis politiques à bouder le dialogue politique recommandé par la CEDEAO. Mamadou Diallo livre sa compréhension de cette situation.
Je pense aujourd'hui que le dialogue a été fait sans les grandes coalitions politiques du pays. C'est un fait, puisque ces coalitions politiques du pays avaient des préalables qui n'ont pas été remplis. Mais je pense que ce dialogue a quand même un avantage, c'est que parmi les recommandations, il y a celle qui a retenu mon attention, c'est celle quand même de permettre la décrispation de la situation politique, de la situation de crise politique dans le pays. C'est le fait de mettre ceux qui sont en prison sous contrôle judiciaire, permettre aux leaders comme d'Alain Sidia et tant d'autres de rentrer au pays et faire face à la justice guinéenne.
Les militaires au pouvoir en Guinée ont accepté d'organiser des élections au bout de 2 ans. Mais si la CEDEAO est d'accord, la question sur la date du début du chronogramme reste sans réponse claire. Abdoul Sako, coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée.
La mise en œuvre des 10 points démarre à partir de là-bas. Est-ce que c'est à partir de l'accord entre les experts de la CEDEAO et le CNRD? Est-ce que c'est à partir du sommet? Mais ils ont ouvert une sorte de presse qui appelle au CNRD d'engager un véritable dialogue entre les acteurs qui sont opposés à sa gestion pour que ce terme immédiatement-là puisse être acté entre les Guinéens. Mais au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez déjà les résolutions des échanges en séminaire d'un mois qui sont passés entre certains acteurs et le CNRD, vous comprenez qu'ils disent, ils ont dit dedans qu'ils ont ouvert les candidatures à l'élection présidentielle jusqu'au 31 décembre 2024. Cela veut dire qu'ils ont ouvert les brèches vers un glissement au-delà de 2 ans, plus que pourquoi pas 3 ans. Donc une fois encore, cet accord a été une contrainte pour le CNRD, mais ils ne veulent absolument pas s'il faut aller dans le sens. Ce qui concerne aujourd'hui le CNRD, c'est comment ils peuvent gagner le maximum de temps dans les privilèges du pouvoir.
Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan. et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
En Israël, le retour de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre est salué par ses partisans. Mais du côté palestinien, l'arrivée de cette coalition qui prend le pouvoir à Tel Aviv avec un parti qui milite ouvertement pour l'annexion d'une partie de la Cisjordanie suscite des inquiétudes. Pour une analyse, Abdourahman Dia a joint à Tunis le journaliste palestinien Bassel Torjman. Abdourahman Dia, donc, le journaliste palestinien Bassel Torjman est au micro de Abdourahman Dia.
Premièrement, c'est inquiétant, pas pour moi, mais pour tout le monde. Mais ce n'est pas une inquiétude pour le processus de paix, parce qu'il n'y a plus de processus de paix au Moyen-Orient. Ça fait longtemps maintenant, ça fait 30 ans après la signature de l'accord d'Oslo, il ne l'est jamais fait. C'est une situation statico. Et malheureusement, les grandes puissances, spécialement les États-Unis, n'ont pas été sérieux ni pris en considération de trouver une solution finale et pousser les deux parties, les Palestiniens et les Israéliens, à signer un accord de paix final.
La coalition qui arrive au pouvoir en Israël comprend un parti qui s'exprime ouvertement pour l'annexion d'une partie de la Cisjordanie. Est-ce que vous pensez que les pays occidentaux comme les États-Unis, l'Union européenne peut-être, devraient s'exprimer ouvertement sur cette question?
Oui, mais ils vont rien faire. Ils vont juste rester sur des regrets, mais pas aller vers une condamnation ou bien utiliser la charte du Conseil de sécurité des Nations Unies pour pousser Israël à changer ses points de vue.
Vous dénoncez ce que vous considérez comme une inaction des pays occidentaux, mais Israël est également en train de se rapprocher de certains pays arabes à travers les accords d'Abraham.
Le problème, ce n'est pas la position des pays arabes. Le problème, c'est la décision israélienne et les conséquences de cette décision sur les accords de paix. Quelle paix peuvent les pays arabes accepter et le peuple dans ce pays arabe avaler ça dans une situation que Israël va dire que fait pris des décisions qui va toucher le fond de processus de paix au Moyen-Orient.
Le nouveau, en tout cas le Likoud qui revient au pouvoir a quand même dit qu'il ne toucherait pas au statut des lieux saints. Que, pour le cas de Jérusalem, ça vous rassure un peu?
C'est pour la consommation dans le média. Et maintenant, on va voir les conséquences. Et c'est ça le truc qui est très inquiétant.
C'était le journaliste palestinien Bassel Torjman, joint à Tunis par Abdourahman Dia.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Ainsi va le Monde aujourd'hui. Mouhamadou Oumfa, je vous souhaite une bonne fin d'année à l'écoute de nos programmes. Au revoir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
The snow comes down.